podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dossier de Frontières des séries. Aujourd'hui, on vous parle de Little Britain. Les Anglais n'ont pas leur pareil quand il s'agit de pondre des séries à l'humour féroce et outrancier. De toute évidence, nos amis d'outre-Manche se régalent de situations absurdes, politiquement incorrectes, voire carrément scatologiques. Nous avons tous en mémoire des séries comme Absolutely Fabulous, les sketchs des Monty Pythons, Gimme 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 et bien d'autres encore. Et dans la catégorie première de la classe en termes d'humour pachydermique, Little Britain frappe fort et sous la ceinture de préférence. Cette série à sketch créée par David Walliams et Matt Lucas entre 2003 et 2006 a fait hurler de rire les téléspectateurs de la BBC 3, ensuite de la BBC One. La série se paiera même le luxe d'une quatrième saison diffusée en guise de spin-off sur HBO. Quatre saisons de pur délire so British dans lesquelles les deux créateurs de la série interprètent une multitude de personnages plus délirants les uns que les autres. Omniprésents à l'écran, les deux compères invite toutefois de temps à autre d'autres acteurs à l'écran, dont Anthony Stewart Head, que les amateurs de Buffy connaissent bien, puisqu'il a été le célèbre observateur de la tueuse pendant 7 saisons. La série compte également parmi ses rangs un narrateur de renom, Tom Baker, connu pour avoir interprété le quatrième docteur dans la série Doctor Who. Sa voix si caractéristique en font l'un des narrateurs les plus adorés de Grande-Bretagne, et il prouve ici que le délire et l'ironie lui vont comme un gant. Bon public et grand fan devant l'éternel des blagues pipi-caca, Nathaniel Picasse devait se pencher sur cette fameuse série. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en a pris plein les narines. Bonjour Nat.
Bonjour Alex.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, Sarah Sepulcre.
My Taylor is rich.
Oh, ton anglais est parfait.
Oh, waouh.
Et la première question qui me vient à l'esprit, Nat, c'est... Trop d'humour british, tue-t-il l'humour british ?
De toute évidence, parce qu'il est certain qu'il faut avoir un sens de l'humour très large et très bon public.
Pour pachydermique, apprécier... comme on disait.
Oui, il faut vraiment avoir ça pour apprécier la série, sinon c'est vraiment l'indigestion assurée. En tout ça cas, ce que bien. Je conseille déjà d'emblée, c'est de ne pas regarder tous les épisodes et toutes les saisons d'un coup. Sinon,
ce que si... tu as fait pour notre plus grand plaisir aujourd'hui.
Voilà, presque, mais là vous allez vous gaver de motilium jusqu'à la fin de vos jours, parce que c'est vraiment... C'est lourd.
Et on sait que c'est dangereux pour la santé.
Oui, en plus, voilà, on va éviter. Je rappelle le principe de la série. Bah, les deux créateurs veulent nous faire découvrir l'Angleterre. Et c'est dans les monologues qui introduisent chaque épisode qu'on se rend compte de ce principe, puisque le narrateur s'interroge sur ce qui fait la spécificité de l'Angleterre. Qu'est-ce qui différencie cette nation des autres pays ? Est-ce que c'est son histoire, sa reine, sa culture, ses monuments ? Eh bien, en réalité, ce que le narrateur affirme, c'est sa population. Ce sont les Anglais qui font que ce pays a une saveur spéciale.
Mais je ne sais pas si c'est vraiment un plaidoyer touristique.
Non. Écoute, je n'ai jamais vécu en Angleterre, toi oui, donc tu vas peut-être pouvoir nous en parler, peut-être un peu plus. Mais vraiment, la série apprête de nous brosser le portrait tout en subtilité, et là je mets des guillemets, des Anglais typiques, en reprenant à leur compte tous les clichés que l'on peut avoir aussi sur nos voisins anglophones. La série n'est qu'une succession de sketchs, donc c'est pas possible de vous en raconter une histoire, même s'il y a plusieurs personnages récurrents, et donc des sketchs récurrents, qui nous permettent de créer tout de même un espèce de fil rouge. Il y a une histoire qui se crée en filigrane, puisqu'on nous dévoile des Anglais certes délirants, mais aussi un peu désabusés, pathétiques. Il y a une sorte de misère sociale aussi.
C'est plutôt de la forme de Benny Hill que la forme d'un feuilleton, genre, je sais pas moi, tous les feuilletons qu'on regarde.
Exactement, oui. Ce qui fait que ça a été pour moi pas très facile de préparer ce dossier quelque part, parce que outre les sketchs, qu'est-ce qu'il y a à dire derrière ? Mais en plus, comme c'est une forme de sketch, c'est évidemment outrancier, c'est évidemment caricatural.
T'aurais dû regarder Benny Hill ?
Non. Et pourtant, j'ai vu Benny Hill quand j'étais petit. Mais là, vraiment, me replonger dedans, je pense que ça aurait été un petit peu difficile. Donc, ne vous attendez pas à une construction de personnages sur plusieurs sketchs, puisque chaque épisode est l'occasion de répéter inlassablement le même ressort narratif. Et donc, tous les héros de ces sketchs sont joués intégralement aussi par les deux créateurs de la série, qui de toute évidence n'ont pas peur du ridicule ni du travestisme, puisqu'ils interprètent sans distinction aucune les rôles féminins et masculins, ce qui leur vaudra d'ailleurs quelques critiques. Les gens qui n'aiment pas la série disent « ouais, c'est la série où ils jouent les PD, ils jouent les travestis tout le temps ». Petit aperçu des sketchs mythiques de la série. On a le personnage de Dafydd Thomas. Dafydd est un Gallois homosexuel excentrique qui clame sans cesse et qui se plaint en fait sans cesse qu'il est the only gay in the village, donc le seul homo du village, mais qui fait tout en même temps pour rester le fameux seul homo du village, puisqu'en fait il refuse tout contact avec les autres homosexuels. En fait, on se rend compte très vite que dans le village il y a beaucoup d'homos, que tout le monde est très open par rapport à la question, mais lui refuse l'évidence en fait. Hein. Il préfère pouvoir se plaindre.
C'est lui le seul conservateur in the village en fait.
Complètement. Complètement. Là, on découvre au passage que l'acteur qui l'interprète, qui est donc un des créateurs de la série, Matt Lucas, n'a aucun problème d'ego, puisque franchement, le ridicule de ses tenues est proprement hallucinant.
Il était très rose, hein, non ?
Oui, très rose. C'est toujours des trucs en cuir extrêmement moulants qui font ressortir son bide. Enfin, c'est.
Parce qu'il a un peu un physique un peu ingrat.
Oui. C'est un des personnages qui marque. Quand on pense à Little Britain, on pense clairement à ce personnage. On pense aussi à Lou Todd et Andy Pipkin. Puisqu'en fait, Andy est un faux handicapé qui est pas piqué des hannetons d'ailleurs. Avec la bouche sur le côté, des grosses lunettes, des cheveux gras.
Je crois qu'on a déjà perdu nos auditeurs. Voilà.
Quand je dis qu'il est faux handicapé, c'est parce qu'il se déplace en fauteuil roulant, dont il n'a nul besoin. Et le seul qui ne le sait pas, c'est Lou, son ami dévoué, qui subit son branché, tous ses caprices, qui essaie toujours de l'aider, etc. Andy n'a absolument aucun respect pour lui. Et il y a toujours ce gag récurrent qui est que dès que Lou a le dos tourné, on voit Andy qui part en arrière-plan, monter dans un arbre, jouer un match de foot, faire du ski nautique, voilà. Et puis après, qui se rassied toujours au bon moment pour que son ami Lou ne s'en rende pas compte. On a aussi un personnage mythique qui est mon personnage préféré, qui est de Marjorie Daves. Marjorie qui est le chef de groupe de lutte contre l'obésité, les Fat Fighters. Elle est particulièrement gratinée, hein, et sans mauvais jeu de mots.
Son conseil pour maigrir, c'est manger rien de gras, donc manger de la poussière, ça vous fera pas grossir.
Oui, parce que la poussière ne contient pas de graisse. Alors qu'elle est elle-même en surpoids total et elle se permet de critiquer absolument tout le monde, mais de manière absolument odieuse. Elle est infâme et c'est à se demander comment ce groupe est encore rempli parce qu'elle les insulte en permanence.
Avec le, il y a un personnage d'origine indienne. Oui. Elle fait exprès à chaque fois de pas comprendre ce qu'elle dit alors que c'est tout à fait compréhensible. Je comprends pas avec votre accent. Elle est imbuvable.
C'est absolument ignoble. Ce personnage est ignoble. Alors on a aussi Edward Emily Howard qui est donc un travesti pas très raffiné qui tente de convaincre tout le monde qu'il est une lady et donc habillé à la manière vraiment lady, vieille lady hein, on va dire, avec la petite ombrelle, les robes à frou-frou,
victorienne.
Victorienne effectivement, mais qui a une moustache ou une barbe, donc évidemment la supercherie est assez vite dévoilée. Et ce qui est assez marrant, c'est que chaque sketch qui met en présence ce personnage avec d'autres, personne ne se fait une illusion sur le fait que c'est un homme effectivement, sauf lui en fait. Il comprend pas en fait à quel point son déguisement ridicule. Sébastien Love, alors ils ont bien trouvé aussi son nom de famille. Puisque
rien à voir avec Jennifer. Hein.
Non, rien à voir. Qui est l'assistant du Premier ministre, qui est joué par Anthony Stewart Head, l'ancien observateur de Buffy, dans un contre-pied total, hein, évidemment. Sébastien est l'assistant du Premier ministre, dont il est follement amoureux. Alors là, on a droit à l'homo efféminé dans toute sa splendeur, particulièrement agressif, on va dire, hein, insolent. Il est jaloux de l'épouse du Premier ministre, ainsi que d'autres assistants qu'elle y voit des concurrents. Anne et le docteur Lawrence. Anne, c'est une malade mentale qui a fréquemment des crises délirantes. C'est jamais. Voilà, exactement.
En fait, on n'a pas besoin d'extrait aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Qui est entrecoupé de quelques moments de lucidité quand même. Ce qui est marrant, c'est que le docteur Lawrence, qui est son psychiatre, voit tout ça avec une sorte de bonhomie, une sorte de stoïcisme. L'autre, elle lèche quand même la gueule du pape à un moment. Elle soulève sa robe, elle lui fait voir ce qu'on peut imaginer.
La marchandise.
Voilà, son service. Et l'autre regarde toujours ça avec une sorte de stoïcisme absolument effarant. On a aussi Bubbles Diver. Alors Bubbles, c'est une femme qui souffre d'obésité morbide, chauve, parce qu'en fait on se rend compte très vite qu'elle porte une perruque, et surtout désargentée. En fait, elle vit dans un espace de terme la plupart du temps, où elle essaie de vivre dans la grande société, mais elle est complètement ruinée. Et en fait, elle essaie de séduire, souvent avec la finesse d'un pachyderme, tous les hommes qui passent. Et donc elle finit la plupart du temps à poil, et là on se rend compte du gros travail des maquilleurs et des accessoiristes qui ont créé un costume sur mesure pour Matt Lucas. C'est absolument immonde d'ailleurs. À chaque fois qu'elle se fout à poil, on est là, non, par pitié, c'est horrible.
D'autant qu'un peu plus tard dans la saison, elle est doublée par un deuxième personnage. Et qui est encore plus immonde.
Voilà, la version black, absolument infâme. Carol Beer, c'est un de mes personnages préférés, qui travaille dans une banque, puis dans une agence de voyage. Elle, c'est vraiment la porte de prison absolue. C'est-à-dire que dès qu'il y a un client qui arrive, elle se montre proprement ignoble, enfin froide. Et à chaque fois qu'elle a une demande spécifique du client, elle tapote sur son ordinateur et puis après il y a toujours cette phrase mythique qui ressort, computer says no. C'est la personne qu'on aimerait vraiment pas rencontrer.
Surtout qu'elle tousse la bouche grande ouverte sur les gens quand elle a fini l'interview, c'est assez sympathique.
Exactement.
Moi je croyais que la Grande-Bretagne était peuplée de James Bond.
Non, on est vraiment dans des personnages bien gras, dans ce qu'il y a de plus populaire et limite populiste parfois. Je terminerai ici avec aussi Vicky Pollard. Vicky qui est une adolescente, bien que mère de 6 enfants de 7 pères différents, chercher l'erreur, vulgaire, caractérielle, délinquante, semble de douter de rien en plus, donc toute discussion avec elle finit par un affrontement, elle supporte pas la moindre contrariété et à chaque fois elle se lance dans une sorte d'explication de pourquoi elle n'a pas pu rendre son devoir, pourquoi est-ce qu'elle est en prison, en fait elle fait des sortes de digressions sur sa vie en fait et on se rend compte que c'est toujours sexuel et franchement à la limite... de la délinquance totale et c'est un personnage qui est assez savoureux, il faut vraiment voir sa tronche pour l'apprécier particulièrement et surtout son accent.
Project in my first thing next week. Vicky Pollard, stay behind.
Oh, good luck, Vicky.
Yes, thank you, Kelly. Can you come here, please, Vicky? Vicky, it's been 2 weeks now. And I still haven't received your essay on Lord Kitchener.
No, because what happened was I was going around cars, but then something happened because Shelley Todd is a bitch anyway. I've been completely going around saying that Destiny stole money out of Rochelle's purse, but I ain't not even spoken to Rochelle because she's like Dash Michaela's hair.
Vicky, I'm not interested in that. I'm more interested in your coursework.
No, because what happened was this whole thing happened, what I don't even know nothing about, because Ashley Kramer's been going around saying that Samantha's brother smells mad, but anyway, shab! Never even stole no car, so shab!
Vicky, have you even started this essay?
New, but, year, but, new, but, yeah, but, new, but, yeah, but, new, because I'm not even going on the pill because Nadine reckons they stopped me from getting pregnant.
You know if I don't get this essay by the end of the week, I'm going to have to fail you.
Yeah, but Louise Farrell emptied a whole bottle of Fanta into Shannon's bag, but anyway, Luke reckons he figured Emma Bacon around the back of the language lab.
Vicky, do you want to pass your GCSE?
GCS what? Don't give me evils!
Si vous croyez qu'on a parlé du pire, le pire est à venir.
C'est ça, parce que là je pense que dans la catégorie limite gore, on a Harvey Pinscher, qui est un bourgeois en âge de se marier. D'ailleurs c'est comme ça que ça commence, dès que le sketch apparaît dans la saison 3, il est sur le point de se marier. Et en fait il choque légèrement son entourage, puisque, hormis sa famille, puisqu'en fait il est toujours nourri au sein. Et donc chaque sketch termine invariablement par « Betty ». Donc il regarde sa mère en faisant « Betty ». Qui veut dire je veux téter, et sa mère lui donne invariablement le sein devant tout le monde. C'est absolument ignoble. Il y a même sa grand-mère aussi qui s'y met à un moment, parce que sa mère n'a plus de sein, n'a plus de lait,
plus de sein non plus probablement, voilà, d'ailleurs.
Et là vraiment on se dit non, ils vont quand même pas oser, et si, ils osent, jusqu'à proposer le lait maternel pour mettre dans le café avec leurs invités. C'est absolument ignoble.
Et évidemment le but derrière, c'est la tête des invités ou des gens qui sont à côté, la tête de la fille fiancée notamment, puis les parents, la fiancée, puis ça évolue au fur et à mesure de la famille. C'est...
Oui, ce sketch est absolument ignoble et en même temps terriblement drôle. On a aussi Dudley Punt et Ting Tong Macadangdang. Alors là, on est dans la caricature évidemment aussi de l'étranger, parce que Dudley, c'est l'homme britannique, vieux garçon de toute évidence, avec les dents pourries, formant le tue l'amour absolu, et qui a commandé une femme par correspondance en Thaïlande. C'est Ting Tong qui arrive, qui est loin de ressembler à la jeune femme attrayante représentée sur la photo du catalogue.
C'est bien fait.
Et qui se révèle être en fait un travesti, enfin un shemail thaïlandais, particulièrement corsé aussi, mais qui finira d'ailleurs par voler l'appartement en fait de Dudley pour en faire un restaurant thaïlandais. Voilà, on l'aura compris bien sûr avec l'énumération de tous ces sketchs, ces personnages haut en couleur et surtout énormes dans tous les sens du terme, que Little Britain ne fait pas dans la dentaine.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est gros, c'est gras, c'est aussi incroyablement drôle, il faut quand même le dire, parce que rien que s'en rappeler ici, tout le monde ici a quand même bien rigolé. Et surtout, on reste bouche bée face au talent des deux acteurs de la série, et en particulier Matt Lucas, qui peut à peu près tout interpréter, qui n'a pas peur de l'extrême, ça c'est certain. Pourtant, il est incroyablement juste dans la profusion de petits détails qui rendent ses personnages assez fabuleux, assez croustillants. David Williams, j'ai un petit bémol par rapport à lui, qui est un peu plus inégal. Il peut se montrer excellent quand il joue l'assistant homosexuel du premier ministre anglais, ou lorsqu'il joue Carol Beer, par exemple. Et puis dans d'autres, on sent que c'est forcé, on sent que c'est moins évident, ça coule moins de source. Et puis parallèlement à ses réussites de sketch, la série est quand même plombée par un bon tiers quand même de sketchs qui sont invariablement mauvais, voire vraiment navrants.
En même temps, ça doit pas être facile à tenir hein, comme distance, à la fois pour les acteurs, mais aussi dans l'écriture.
Oui, mais je comprends. Et en même temps, ce que je comprends pas, c'est que c'est un sketch qui ne fonctionne pas à la base et qui réplique à chaque fois avec la même chute. Mmh. De toute évidence, c'est pas drôle. C'est pas aussi drôle que les autres. Alors on a, par exemple, c'est le petit homme au casting. On voit une sorte d'attaché de presse, enfin, directeur de casting qui fait systématiquement rentrer ce même petit homme. Et il y a une différence de taille, en fait, entre les deux. Et il y a ce gag récurrent que quand le directeur de casting lui tend un objet, l'objet arrive disproportionné dans la main de l'acteur. Je comprends pas en fait l'humour qu'il y a derrière. Bon, oui, je vois la différence de taille, mais qu'est-ce qui est drôle derrière, je ne la comprends pas. On a aussi l'hypnotiseur qui manipule son entourage pour faire ce qu'il veut quand il veut que sa femme fasse la vaisselle ou peu importe. Bon, ben il essaie de l'hypnotiser ou sa grand-mère par exemple. Alors le sketch fait rire une première fois et après, bah oui, c'est toujours la même chose. Je ne comprends pas trop. On a aussi ce directeur de restaurant qui joue de la flûte à un couple de clients et qui les dérange. Là aussi, ça c'est vraiment le sketch. Je ne comprends pas l'humour derrière. Alors peut-être que je suis pas assez c'est british peut-être, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je regarde ce sketch en me disant oui, so what, et le problème c'est qu'il revient et il revient. Bon, heureusement c'est que dans la première saison, mais ce sketch revient et je ne comprends pas le...
Faudrait voir ces sketchs, justement c'est possible avec Little Britain Live, oui. Si le public réagit différemment par rapport à ces sketchs, s'ils ont été joués en live ou pas.
Eh bien c'est ça qui justement me surprend, on parlera de l'épisode live plus tard, mais c'est qu'effectivement ce personnage de directeur de restaurant et d'hôtel arrive en scène et les gens sont hystérique au moment où il arrive et il est là, oui, je suis de retour, etc. Moi, sincèrement, je comprends pas. Je comprends
ça
pas
doit
l'humour.
Être propre
derrière.
Aux Britanniques, apparemment.
Ça doit être très propre. On a aussi ce sketch assez navrant de la vieille dame incontinente. Elle rencontre quelqu'un, alors ça peut être au supermarché ou dans une salle d'attente. Elle se vide entièrement, mais c'est assez gore, hein. Un liquide jaune, des hectolitres comme ça qui commencent à lui glisser entre les jambes. Bon, la première fois, on se dit, ah ok. Et puis, le problème, c'est que le deuxième sketch arrive et c'est exactement le même ressort, le troisième, le quatrième. Et on se dit, bon, là, il se foule pas trop quand même. Hein.
T'as aussi le sketch avec cette dame qui parle à son chien. Et que ce chien dans sa tête lui fait faire des trucs dégoûtants. Elle doit se mettre toute nue où il veut lui faire l'amour, enfin bon, voilà. En plein milieu de la rue, c'est assez particulier.
Et elle se fait toujours arrêter, je comprends pas trop. Oui, voilà, je ne comprends pas.
Alors, vous avez un humour au 36e degré, mais les Anglais, ils sont au 42e degré déjà.
Il faut croire. Et ben, en tout cas, ces sketchs mauvais mettent en évidence la plus grande faille en fait, de la série, qui est cette répétition. C'est toujours le même scénario, c'est toujours le même ressort comique. Il n'y a pas d'évolution des personnages. Alors bien sûr, la répétition peut parfois rendre la situation drôle, mais ça lasse quand même assez rapidement, évidemment.
Et puis ça montre aussi qu'il y a des choses qui sont vraiment très culturel et qu'on peut pas facilement exporter. On peut comprendre certaines choses, mais manifestement, il y a des autres trucs où non, ça fonctionne pas.
Clairement, ça fonctionne pas. Ou de ces sketchs aussi, en plus récurrents, il y a aussi une répétition des thèmes qui sont abordés dans la série.
So, Prime Minister, the meeting with the Trade and Industry Secretary has now been rescheduled for 6:15.
Fine. So, the Chancellor's been moved to 7.
Hiya.
Oh, hello.
Yes.
Sebastian, this is Gregory Merchant. He's just come to us from the Treasury.
Hello, Sebastian. Nice to meet you.
Whatever. Sorry, Prime Minister. Can I have a word?
Well, can't it wait?
It's kind of important, Prime Minister.
Gregory, would you...
No, of course.
Who was that?
Gregory, he's a new boy at the Treasury. He's rather good.
Oh, is he?
Yeah, he's got a double first at Cambridge. Really knows his stuff.
I don't like him.
Why's that?
I see the way he looks at you.
What about it?
He was looking at you like he loves you.
I don't think so.
It's sad. He's obviously got some kind of mad crush on you, Prime Minister. think it's very unlikely.
It's true. He gets all kinds of nervous when he's around you.
Is that everything?
Yes.
Do you want to get up?
No.
Could you call Gregory back in?
Gregory. I think he's gone. So anyway, as I was
saying... Gregory, come in, please. Sebastian's just leaving. Could you show him out?
Bitch.
Sorry about that. Where were we?
Oh, your meeting with the Chancellor.
Oh, yes, yes, right.
Ooh. You smell nice.
Tu décris les personnages, l'obésité, l'homosexualité sont des thèmes que tu as sans cesse
Ah mais complètement.
Abordé.
Bon, l'obésité évidemment ils en jouent parce que un des deux acteurs est particulièrement obèse et n'a visiblement aucun problème avec son obésité puisqu'elle est vraiment mise en scène. Et puis l'homosexualité, là c'est quelque chose qui est vraiment très frappant quand on regarde la série dans son intégralité en très peu de temps. C'est qu'on a l'impression que presque la moitié des personnages ont une sexualité trouble, vivent quasiment d'ailleurs dans le déni, un déni relativement étrange. Ils sont à l'aise avec leur sexualité, ils l'affirment haut et fort, hein. Mais ils se montrent particulièrement intolérants avec les autres, en fait. Ils sont très peu ouverts au monde qui les entoure. Alors, je sais pas si les créateurs de la série critiquent une forme de communautarisme, je suis pas certain. Mais en tout cas, ils ont le mérite de mettre en scène des personnages homosexuels qui ne subissent pas leur sexualité et qui se fichent éperdument de déplaire, hein. On est dans des personnages assez forts, quand même. Par contre, ce qui est intéressant à analyser, c'est la différence entre le faire et l'être du personnage. C'est-à-dire qu'on est dans le paraître de l'homosexuel, mais en fait, si on regarde bien, aucun des personnages homosexuels n'a une vie sexuelle, en fait. On a David Thomas qui refuse tout contact avec les homosexuels, l'assistant du Premier ministre qui rêve d'avoir une relation sexuelle avec son Premier ministre qu'il n'a jamais, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la série, c'est que le Premier ministre n'est pas indifférent aux hommes, en fait, puisque lui a des relations sexuelles, notamment avec le président des États-Unis. Et il ressort d'ailleurs d'une réunion des présidents des États-Unis avec une trace de sperme sur...
C'est Monica, en fait.
C'est ça, en fait. Donc, voilà, on fera un petit peu le parallèle. C'est un peu étrange, c'est qu'effectivement, les personnages homosexuels, on ne joue que sur leur paraître, sur l'image qu'on peut avoir des homosexuels, sur la communauté homosexuelle et tout ce que ça peut induire, mais ils n'ont pas de sexualité. C'est assez étrange. Là aussi, un des thèmes aussi fort abordés dans la série, c'est les simples d'esprit. Là, une sorte de misère sociale, hein, quand même, dont on se moque éperdument. Alors, on est dans une forme de striptease, hein, l'émission qu'on connaît bien ici, sous nos contrées en France et en Belgique.
Et ça, c'est très anglais, je trouve. On n'ose pas, hein, nous.
Non.
Eux, bien.
Ça, c'est clair,
hein,
parce que là, les handicapés, alors que ce soit physiques, mentaux, etc., les très simples d'esprit, ils en prennent pour leur grade. Là, on reconnaît vraiment, effectivement, l'humour et potache irrévérencieux des Anglais. Et il n'y a d'ailleurs qu'en Angleterre qu'on peut faire ce type de sketch sans provoquer un tollé général.
Et c'est parce qu'on a parfois l'impression que l'humour anglais se résume aux quelques blagues de James Bond ou au côté un petit peu « je me fous de moi » de Bridget Jones. Mais non, en fait, ça va bien plus loin que ça. Et c'est clair que...
Ils y vont très fort, quoi, parce que je crois qu'un sketch de Little Britain réalisé en France par des acteurs français serait synonyme automatiquement de fin de carrière, hein. On serait taxé de racisme, condamné à l'exil jusqu'à la fin de leur jour, etc. C'est assez fort. Tandis que là, ça passe, tout le monde rigole et on sait que c'est potage et on sait que c'est pas spécialement pensé. Parce qu'il y a quand même une multiculturalité en Angleterre qui a peut-être beaucoup moins ici et dont on peut plus se moquer.
Ce qui est assez particulier, par contre, c'est que Little Britain, tu l'as dit, a eu un spin-off Little Britain USA et qu'une partie de ces personnages irrévérencieux sont passés aussi aux États-Unis. Or là, c'est peut-être plus difficile à passer, non ? Même si c'était pour HBO.
C'était pour HBO. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas du tout édulcoré d'ailleurs le passage. Et j'allais effectivement y venir. C'est que après 2-3 saisons de Little Britain, on se dit bon, on a fait un peu le tour de tous les sketchs, on a un peu épuisé. Et puis heureusement, il y a cette quatrième saison. Et donc en fait, c'est Little Britain USA, puisque la série s'exporte aux États-Unis. Et donc certains personnages traversent l'Atlantique, notamment ben, les personnages de Marjorie, de Lou et Andy, etc. Qui sont peut-être les personnages les moins trash aussi. Enfin, ils sont trash dans leurs propos, mais peut-être ils finissent pas toujours à poil.
Il y a quand même les personnages de Lou et Andy qui sont assez trash. Je me souviens du premier sketch de Little Britain USA où Lou va faire le check-in de l'hôtel et lui se lève et va pisser dans la piscine. Ça reste trash, quoi.
Ça reste trash.
Le handicapé qui se lève, bon...
Oui, exactement.
D'un autre côté, c'est pas parce que HBO a proposé Little Britain que ça a fonctionné. Et peut-être que justement, je ne sais pas si tu connais les chiffres d'audience, peut-être que ça a été proposé, mais que ça n'a pas du tout fonctionné aux États-Unis.
La saison 4 est la dernière, en tout cas. Ils
ah
ont...
ben voilà.
Voilà. Matt Lucas et David Walliams ont promis peut-être de revenir à l'occasion, mais c'est vrai que ça reste dans les cartons. Pour le moment, je pense pas que la série reviendra. Ce serait vraiment étonnant, ou alors peut-être dans vraiment quelques années. Mais je crois pas que le public américain a accroché effectivement à l'humour so British de Little Britain. Et ce qui est intéressant quand même, par contre, dans cette saison 4, c'est qu'il se permet aussi de créer de nouveaux personnages qui sont aussi bien gratinés, hein, bien sûr. On a cette petite fille et sa mère, en fait, cette petite fille, elles n'arrêtent pas de se dire « Je t'aime plus que Mickey Mouse. Je t'aime, non, moi je t'aime plus. » Enfin, elles se font une sorte de petit dialogue et puis la petite fille termine toujours par « Je t'aime plus qu'une pipe, par exemple. » Ou des trucs comme ça, un peu plus trash. Et donc, ça surprend un peu la mère. Puis après, on a aussi des guest stars qui arrivent aussi dans cette saison 4 avec Rosie O'Donnell, Robbie Williams. Et même derrière la caméra, on a David Schwimmer aussi qui signe un épisode. Quoi penser de la série quand même au final? Alors évidemment, à regarder en version originale, en version française, absolument inutile, parce qu'il faut entendre bah déjà la vraie voix des acteurs et puis surtout ce travail sur les accents qui est vraiment extrêmement savoureux. On a aussi quelques épisodes spéciaux puisque Little Britain s'exporte aussi à l'étranger, pas seulement aux USA, mais il y a deux épisodes qui font voyager les personnages dans le monde entier. Par exemple, Lou et Andy qui prennent l'avion pour aller à Disney World, mais Andy provoque le crash de l'avion et donc il reste deux semaines coincé sur une île déserte. On passe aussi par Mykonos puisque Tafit, qui a enfin quitté son fameux village, se retrouve à Mykonos. Alors Mykonos, évidemment, on le sait tous, c'est une île qui est particulièrement peuplé par la communauté homosexuelle, ou en tout cas où la communauté homosexuelle se réunit, mais là aussi Daffy trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'homosexuels sur cette île. On a l'Espagne qui est mise en scène avec un tour opérateur avec la fameuse Carol Beer qui est toujours aussi agréable, la Thaïlande avec Vicky Pollard qui se retrouve en prison pour trafic de drogue, etc., etc. Et on passe même par la Belgique, on va faire un petit détour dans un camping.
Ah oui, c'est pas Anvers, Bruges ou Bruxelles?
Non, on est dans un camping bien vert, etc., avec Ting Tong qui se retrouve là-dedans, donc c'est
à Serein.
Ils ne précisent pas où c'est, et d'ailleurs j'ai remarqué qu'ils ont fait une petite erreur parce qu'ils viennent en voiture et que la plaque de la voiture n'est pas tellement une plaque d'immatriculation belge, mais ok, bon voilà, on va dire qu'ils sont venus de la Grande-Bretagne jusque-là avec leur propre voiture.
Et pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est Serein, c'est l'endroit où a été tourné Rosetta. Les frères d'Ardenne, voilà, comme d'accord, ça vous verrez un peu plus.
Et après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'épisode live, qui a un vrai tour de force, puisque c'est quand même un épisode, comme je viens de le dire, live, donc sur une scène. Et là, les deux acteurs enchaînent tous leurs personnages cultes pendant plus d'une heure sur scène. Donc j'ose pas imaginer le travail derrière, de maquillage, de passer d'un personnage à l'autre. C'est vraiment très drôle et on voit à quel point le public réagit très 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 fort. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les premières saisons de Little Britain, c'est une série à sketch avec le public qui rit derrière. Ça a son avantage, effectivement, parce qu'on se laisse porter par le rire du public, mais c'est des fois aussi un petit peu too much, parce que les gens sont des fois hilar sur un truc qui ne l'est pas du tout et on se demande bien pourquoi.
Pour ceux qui voudraient découvrir Little Britain, je suppose que la série est sortie en DVD.
La série est sortie en DVD et à voir évidemment en version originale. Je la conseille à petite dose homéopathique pour pas friser l'indigestion.
J'ai l'impression que c'est ce que t'avais dit déjà à l'époque, du cœur à ses raisons.
Oui.
À petite dose, c'est sympa, mais trop.
Oui.
C'est un autre genre quand même.
C'est pas la même chose. Oh, on est quand même dans un humour très lourd aussi, hein, mais ben on a l'humour plutôt à l'américaine canadienne, et puis effectivement de l'autre côté l'humour très très, enfin une partie de l'humour britannique qui est loin d'être dans la subtilité dans le cas de Little Britain.
Et bien c'est là-dessus qu'on va refermer notre dossier, on se retrouve très très vite pour une prochaine critique de série. Merci Nat, merci Sarah.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.